soi. Voilà les deux remarques préalables. Et tout de suite, je rentre dans ce qui va structurer ces cours. Deux éléments en guise de mise en place du projet. D'abord, il faut, pour bien comprendre en quoi le christianisme va rompre avec la mythologie grecque, mais aussi avec la philosophie grecque, dans ce cas-là, de plus fondamental, de plus profond, il faut rappeler au moins brièvement, quel était le message de la philosophie grecque en matière de doctrine du salut, en tout cas un des messages fondamentaux de la philosophie grecque, hérité directement de la mythologie. Ça, c'est le premier point. Sinon, on ne comprend pas la rupture, si on ne sait pas avec quoi on rompt. Donc, il faut d'abord préciser les éléments grecs avec lesquels le christianisme va rompre. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai donc d'éclairer les différents aspects de cette rupture, à la fois rupture sur le plan théorique, sur le plan moral. On va voir apparaître dans le christianisme une doctrine morale, une philosophie morale complètement nouvelle. Et puis aussi, donc, sur le troisième plan, qui est peut-être le plus intéressant, sur le plan du salut ou de la sagesse ou du sens, comment donc le christianisme va mettre en place une théorie de la vie bonne qui va, elle aussi, être en rupture complète, ou en tout cas très très large, avec la mythologie grecque et avec ce que la philosophie grecque avait pu tirer de cette mythologie. Donc je commence d'abord par rappeler le message fondamental de la mythologie et de la philosophie grecque, en tout cas ce que je considère comme tel. Il y a bien sûr d'autres messages, mais c'est peut-être le message le plus puissant, le plus fort, avec lequel le christianisme va rompre. Quand on regarde ce que la philosophie grecque, en tout cas la tradition la plus puissante, celle qui va de Parménide aux stoïciens en passant par Platon et Aristote, a retenu de la mythologie grecque, cette mythologie qui va très largement passer dans les cultes romains, dans le paganisme romain, qui est un héritage très largement de cette mythologie, avec lequel donc héritage le christianisme va rompre. Il y a deux épisodes importants dans la mythologie qui permettent de se situer, et de situer par après le christianisme, par rapport à ce que la philosophie va en tirer. Le premier message, c'est le message du voyage d'Ulysse, c'est le message d'Homère. Il y a un épisode auquel je suis très attaché dans cette histoire que raconte l'Odyssée d'Homère, qui est l'épisode au cours duquel Ulysse va s'arrêter dans l'île de Calypso. Je le rappelle très brièvement, j'y reviendrai dans d'autres cours, dans d'autres coffrets consacrés plus directement à la mythologie grecque, mais il y a un moment essentiel. Vous vous souvenez que, si vous vous en souvenez pas, je vous le rappelle, que Ulysse a aidé, et même en on peut presque dire qu'il a gagné la guerre de Troie. En tout cas, il a aidé puissamment à la gagner, cette guerre. Il est bien sûr du côté des Grecs. Lui-même est un roi grec. Il est roi dans une ville qui s'appelle Ithaque. Il a aidé à gagner la guerre de Troie. Il a joué un rôle décisif dans la victoire des Grecs contre les Troyens, avec ce fameux cheval de Troie qu'il a l'idée d'introduire dans la ville de Troie et qui est rempli de soldats et qui va permettre donc d'anéantir les malheureux Troyens. Et puis une fois qu'il a gagné la guerre de Troie, ou en tout cas qu'il a puissamment contribué à faire que les Grecs la gagnent, Ulysse va mettre 10 ans à rentrer chez lui. Il va mettre 10 ans à rentrer chez lui, on se souvient pourquoi, c'est qu'il a crevé l'œil du cyclope Polyphème. Et il se trouve que ce cyclope Polyphème est un des fils de Poséidon, et que Poséidon va vouloir venger son fils, le malheureux Polyphème, auquel Ulysse a crevé l'œil, et pour venger son fils, eh bien, il va tout simplement pourrir la vie d'Ulysse pendant 10 ans. Il va lui mettre des obstacles en permanence sur la voie du retour vers Ithaque, puisque Ulysse veut retrouver donc sa ville, son palais, il veut retrouver évidemment aussi sa femme, Pénélope, son père, Laërte, son fils, Télémaque, et il va mettre par conséquent 10 ans à rentrer chez lui avec plein d'embûches. Et parmi ces embûches, il y en a une qui peut sembler particulièrement agréable, c'est l'embûche Calypso. Calypso est une divinité sublime. En grec, son nom signifie « celle qui cache », Calyptein. C'est celle qui va cacher Ulysse pendant 7 ans sur son île. Elle est ravissantissime, c'est une beauté absolue, d'ailleurs comme presque toutes les déesses. En plus, elle est folle amoureuse d'Ulysse, elle tombe raide dingue de lui. Et par ailleurs, Homère prend soin de décrire l'île de Calypso comme un véritable paradis. C'est une île sublime, il y a des rivières d'eau fraîche, il y a tout ce qu'il faut pour faire des repas délicieux, des cochons gras, des langoustes, des moutons, tout ce que vous voudrez. Il y a des petites nymphettes secondaires qui s'occupent des amants. Et néanmoins, nous dit Homère, tous les soirs, Ulysse pleure en regardant dans ce qu'il croit être la direction d'Ithaque parce qu'il veut à tout prix rentrer chez lui. Et donc on a un peu de mal à comprendre pourquoi il est si malheureux sur cette île. Pour des...